Sunwo Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a moins de 20 ans que les soins palliatifs ont été redéfinis par l'Organisation mondiale de la santé. Et aujourd'hui encore, au moment où toutes les options thérapeutiques s'avèrent sans effet sur l'état d'un patient, se pose la question de l'accès à ces soins qui touchent aussi bien le corps que l'intime. Lorsque l'on aborde cette spécialité médicale, il est bien sûr question d'intégrité physique, mais au-delà de l'appréhension de la fin de vie. Quand on parle de soins palliatifs, il s'agit aussi de démentir des fausses croyances. Non, il ne s'agit pas simplement d'administrer des antidouleurs et encore moins d'abréger les dernières étapes de l'existence. C'est une démarche multidisciplinaire qui intègre directement soins, entourage du malade, à l'hôpital, en institution, à domicile. On parle donc de soins et de services palliatifs, mais aussi de démarches palliatives qui concernent cette fois l'ensemble des professionnels de santé, équipe plurielle, projet complexe, qui intègre les multiples éléments constitutifs de cette prise en charge singulière par le biais des soins de support pour faire face à la perte d'autonomie ou limiter la souffrance physique. Accompagner, anticiper, proposer, soulager. Et au cours de cette émission, nous verrons quelle est la situation dans certains pays francophones, puisque la Fédération francophone internationale de soins palliatifs est présente à Paris à l'occasion du congrès qui marque le trentenaire de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Démarche et soins palliatifs. Pour en parler avec nous, Dr Tambo Batili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy, en région parisienne, et membre de l'équipe Onco-Mali. Regard croisé avec vous, le Rwanda, Dr Christian Nizimira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la douleur et des soins palliatifs, donc dans l'état de la région des Grands Lacs. Soins palliatifs, question en France qui se pose avec les directives anticipées. Nous entendrons tout à l'heure sur cette question ces dernières volontés exprimées pour la fin de vie avec Rutelli Brau. Comment ça se passe? À quel moment les formuler? À qui d'ailleurs les confier? Rutelli Brau qui est chargée de mission au fond pour les soins palliatifs. Et en fin d'émission, nous allons retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
On va essayer justement de sortir du concept, d'être le plus concret possible au cours de cette émission. On parle bien aussi d'accompagnement palliatif. Docteur Christian Nizimira, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi nous parlons aujourd'hui, on commence, hein, c'est logique, par une définition. Si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de soins palliatifs vous interroge, qu'est-ce que vous lui dites? C'est quoi les soins palliatifs?
Je veux dire que le soin palliatif, c'est juste une approche pour améliorer la qualité de vie de patients et de leur famille. Pourquoi de leur famille? Parce que toute la prise en charge du patient est souvent faite par la famille, à part l'aspect médical, l'aspect psychologique, social et spirituel. À un patient qui est confronté à une maladie grave et qui engage des pronostics vitaux, et dont l'objectif est de soulager les douleurs et les symptômes, mais dans une prise en charge un peu globale. C'est pas uniquement la médicalisation, mais aussi cet aspect psychologique, social et spirituel dont je l'ai dit tantôt, et qui est aussi important que de traiter la douleur physique, et qui commence bien sûr depuis les débuts du diagnostic jusqu'à la fin de vie du patient.
C'est pas facile, mais on va essayer de parler sans tabou, sans langue de bois, docteur Nizimira. Ce n'est pas n'importe quel moment, c'est pas au moment de l'annonce d'une maladie chronique, ce n'est pas pour un diabétique qui est pris en charge et pour qui tout va bien qu'on engage ces soins palliatifs. C'est pour des personnes qui sont dans une situation très très difficile.
Exactement. Donc ça commence dès les diagnostics d'une maladie avec qui engage un pronostic vital et dont on sait que Lucie sera la fin de vie du patient.
Est-ce que c'est forcément au moment où tous les médicaments, tous les traitements, toutes les thérapeutiques ne fonctionnent plus, n'ont plus justement de résultats d'amélioration?
Dans les contextes du soin palliatif, comme je l'ai dit, le soin palliatif n'est pas le cinquième roue de la carrosse dans la prise en charge parce que elle fait partie de la prise en charge du patient, et, mais elle est spécifique dans le sens où, où quand on n'arrive pas à trouver donc les traitements curatifs vis-à-vis de ces maladies, qu'on ne doit pas dire on n'a pas fait, on ne trouve pas des médicaments, donc il faut passer maintenant aux soins palliatifs. Non, c'est, les soins palliatifs commencent aussi dès les diagnostics pour dire que la qualité de vie est la première, le premier objectif dans les traitements.
Ça veut dire être malade, continuer de vivre, docteur Tambo-Battili. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une large partie de la population aujourd'hui n'est toujours pas familiarisée avec ce terme de soins palliatifs? Est-ce que les gens se font une idée de ce que c'est ou ça reste encore très très vague?
Ça reste très vague, parce que les soins palliatifs, ça reste un sujet tabou. Comme vous avez dit au début de l'émission, beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit. Même si Christian a bien parlé de ça, que dans le concept, on sait bien que vraiment on fait face à une maladie mortelle, mais les gens ne savent pas les soins palliatifs. Mais pour faire simple, c'est quelqu'un qui est en face d'une maladie mortelle, qu'on l'accompagne pour qu'il parte dignement. Donc ça, ça peut parler aux gens en disant, voilà, c'est quelqu'un, on sait bien qu'il est en face d'une maladie mortelle, il ne va pas s'en sortir, mais on doit l'aider depuis le début, que la maladie, depuis que la fin n'a pas annoncé la fin, on met des mécanismes en place pour arriver à la fin de l'accompagner jusqu'au bout, et par la prévention avec la famille, plus l'entourage du patient.
Vous avez une pratique, docteur Tambo-Battili, ici en France? Vous avez aussi une partie de votre travail au Mali. Est-ce que cette dimension de tabou, vous la retrouvez des deux côtés de la Méditerranée?
Oui, moi j'ai fait mes études de médecine générale au Mali, cancérologique en France, et puis le pied entre le Mali et la France. Donc en termes de dimension humaine, on va dire, c'est pareil. En regardant, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui en France, que les Français, ils ont une approche par rapport à la fin de vie, face à une maladie mortelle différente aux Maliens. Donc du coup, c'est pareil. Donc je trouve que il y a une résistance, il y a une défense, qu'on met un mécanisme en place pour ne pas vraiment être affronté à cette terminologie. Ça existe en France comme au Mali. Mais dans une situation un peu... en France, ça s'est libéré un peu par des politiques... Voilà, sanitaire, par l'État, qui ont été mis en œuvre.
Question de moyens aussi.
Voilà, pour un moyen pour aider les gens à accepter cette situation de maladie mortelle et qui, pour l'instant, n'existe, on va dire, quasi, pas dans certains pays en Afrique, parce que ce n'est pas la priorité politique, parce qu'il y a d'autres maladies aussi qui sont là, qui sont prioritaires. C'est les enfants, c'est les femmes enceintes, il y en a beaucoup. Donc pour l'instant, donc, cette prise de conscience commence à se faire en Afrique par rapport aux maladies chroniques, cancer, sida, tout ça, pour accompagner ces gens.
Alors on comprend bien la notion centrale, les notions centrales de respect et de dignité. Ce qu'on comprend aussi, docteur Christian Nizimira, c'est qu'on touche bien au-delà de la médecine, on touche directement les fondements culturels des sociétés, concept de soins, concept de vie, concept d'un mot qu'on a beaucoup de mal à entendre quand on parle de soins palliatifs, concept de mort. Tout ça se mélange et tout ça, eh bien, ce sont des soignants qui sont là, au chevet, à proprement parler, des patients pour apporter un savoir-faire et retrouver une humanité dans le soin.
Oui, je pense que c'est comme le docteur Tambo l'a dit, le personnel soignant doit aussi comprendre que la prise en charge des patients n'est pas nécessairement focalisée sur l'aspect curatif. Quand il est là, bien sûr, c'est bien, mais quand il n'est pas là, c'est que un patient mourant et c'est un patient vivant. Et qu'il faut vraiment comprendre ça, c'est que le patient a droit à sa dignité et à son humanité. Et que si on se rappelle bien de Hippocrate qui disait qu'il est beaucoup plus important de connaître le patient qui a la maladie que de connaître la maladie du patient. Donc c'est essayer de voir qu'au-delà de l'aspect curatif, il y a d'abord cet aspect humain qui est beaucoup plus important, qu'il y a d'abord la personne. Et bien sûr, il y a la maladie, et que si la maladie n'est pas... ne peut pas être soigné au point de vue d'être traité et curable, il y a la personne et aussi son entourage qui a besoin de, aussi d'être aidé dans tout son ensemble. Et comme vous l'avez dit, c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut vraiment beaucoup souligner.
Malgré tout, il y a l'annonce du renoncement du traitement. Hein, on arrête, comme on dit, on a essayé dans le cas du cancer, on a essayé une chimiothérapie, deux chimiothérapies, on a essayé une radiothérapie. Ça n'a pas fonctionné, l'organisme n'a pas réagi de façon satisfaisante. Est-ce que l'annonce du renoncement du curatif, c'est d'après vous, docteur Tambo Batili, la première étape du palliatif? Ou ça vient avant? Ça vient même avant?
Je dirais non, parce qu'en fait, le palliatif, du moment qu'on diagnostique une maladie grave, une maladie, on est face à une maladie mortelle, on dit qu'il est incurable, on sait bien qu'on retarde les séances. Donc, du moment qu'on annonce ça, depuis en ce moment, on doit mettre en place des soins, ce qu'on appelle, moi je parle plutôt de soins de confort. Donc il faut tout faire pour que le malade ait un confort et jusqu'au dernier instant.
Parce que ce qui est important de comprendre, hein, docteur Christian Nizimira, c'est qu'on ne livre pas le patient à son sort, on ne livre pas le patient à sa douleur. Les médecins restent là pour ce patient et aussi, vous l'avez souligné tout à l'heure, pour l'entourage.
Oui, exactement, parce que la dignité et l'humanité du patient ne s'arrête pas à son diagnostic, mais plutôt à sa façon de vivre. Et je pense que c'est le rôle du personnel soignant d'être là jusqu'à la fin de vie du patient et aussi de son entourage. Et ça, c'est les points clés. Et je pense que c'est même les défis que nous avons des personnels soignants de pouvoir se dire, ah, parce que cette maladie n'est pas traitable, elle n'est pas curable, le mieux, c'est on se sent délaissé, on se sent sans force et on s'est dit, ça c'est plus pour moi. Alors, même l'image même du personnel soignant comme celui qui amène la guérison, change complètement. C'est pourquoi même beaucoup de personnels soignants ont du mal à pouvoir intégrer les soins palliatifs.
Alors, illustration, témoignage, hein, tout de suite, si vous le voulez bien, messieurs, avant de reprendre nos échanges.
RFI.
Et ce témoignage, c'est celui de Violaine. Elle habite à Paris, elle a 55 ans. Elle a accompagné son père, qui résidait dans une structure pour personnes âgées, hein, dans un EHPAD, comme on dit ici en France, avant d'être admis en service de soins palliatifs l'an dernier. Parcours, on va l'entendre, semé d'obstacles pour obtenir cette place dans cette maison médicale. Raphaël Constant l'a rencontré.
Mon père était en EHPAD déjà depuis 7 ans, à la suite d'un Alzheimer. Et la fin devenait vraiment très très pénible puisqu'il y avait des escarres, il y avait vraiment un problème de soins. Et on s'est battu, c'est vraiment le terme juste, pour pouvoir quitter cet EHPAD et qu'il soit intégré dans un établissement spécialisé dans les soins palliatifs.
Et quel a été ce parcours justement ?
Ça a été un parcours compliqué déjà pour sortir de l'EHPAD, puisque dans l'EHPAD on me répondait notamment l'infirmière responsable de l'EHPAD et le médecin que les soins palliatifs étaient donnés dans l'établissement, ce qui n'était pas le cas. Ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais avec quand même très peu de personnel. Et puis l'escarre n'était pas soignée depuis un temps fou. Et à la fin, vraiment, on voyait que mon père souffrait. Donc il a fallu que je sois aidée par quelqu'un qui connaisse bien de l'intérieur les soins palliatifs, qui m'aide et me dise « mais si, c'est un droit auquel ton père a droit ». Et donc il a fallu imposer cette décision au médecin. C'était difficile dans les deux sens, parce que difficile parce qu'on voyait que mon père souffrait, difficile parce qu'au départ, ma mère trouvait que c'était compliqué de le changer et que les médecins ne nous soutenaient pas du tout. On a demandé un congé pour l'aidant, puisque ça faisait 8 ans que ma mère venait tous les jours s'occuper de mon père, et c'est vrai qu'elle était totalement épuisée, que nous étions tous épuisés, hein, dans la famille. Et c'est à ce titre-là qu'on a accepté de le bouger dans cet établissement. Autrement, on me répondait qu'il n'était pas mourant et que donc il n'y avait pas droit et qu'ils allaient le renvoyer dans l'établissement.
Et une fois que votre père a été accepté en service de soins palliatifs, quelle a été la prise en charge? Comment ça s'est passé?
Donc on a été accueillis, il a été tout de suite installé dans une chambre qui donnait un peu sur un jardin, mais surtout avec du personnel très présent, nombreux, très doux, tout de suite, on lui a hydraté les lèvres, nettoyé les dents. Enfin, c'est des détails, mais qui sont tellement... Enfin, on avait l'impression qu'il avait gagné 10 ans en 2 jours. Il y avait un soin de tout le corps qui semblait être très, très apaisant. Et on voyait bien qu'il souffrait peu. Et dès qu'il souffrait, on sonnait, ils arrivaient immédiatement. Et ils faisaient le nécessaire. Et on voyait qu'il était beaucoup plus détendu. L'escarre a tout de suite été soignée aussi. Donc, c'était un apaisement énorme. Mon père, il ne pouvait pas communiquer, donc on lui expliquait, mais le pauvre, ça fait des années qu'il subissait les traitements.
Qu'est-ce que vous avez vu de différent entre l'EHPAD et ce service de soins palliatifs ?
Ce qui sautait aux yeux, c'est que déjà à l'étage, je ne sais plus combien il y avait de lits, mais il y avait un médecin en permanence, nuit et jour, une équipe des infirmières très nombreuses, alors que dans l'EHPAD, il y avait un médecin 2 jours par semaine, l'infirmière chef qui était là, mais pas tout le temps et pas la nuit, et il y avait 3 infirmiers pour 80 malades. Donc la différence, elle était juste colossale. Il y avait aussi là, alors lui il n'a pas tellement pu en profiter, mais il y avait un atelier de sculpture et d'art, il y avait une psychologue que ma mère a pu rencontrer sur place à l'étage. Il y avait aussi une chapelle et une équipe liturgique, enfin, qui pouvait venir si les personnes le souhaitaient. Il y avait une rose quand vous arriviez, enfin, des fleurs. Il y avait vraiment un grand sens de l'accueil. Alors, on ne dérangeait jamais. Déjà, de nous permettre d'être là quand on voulait, pas d'horaire en fait. Et puis, le médecin et encore une fois les infirmières étaient très disponibles pour nous faire un état des lieux de l'avancement de la maladie ou de l'état de mon père. Donc, on n'avait pas du tout le sentiment en partant qu'on l'abandonnait. On savait qu'il allait être bien traité, bien soigné, que s'il souffrait tout de suite, ils intervenaient. Et cette attention autant aux malades qu'à la famille... c'est sûr que c'est extrêmement précieux.
Et il est resté combien de temps dans le service de soins avant de décéder ?
15 ou 20 jours, mais pas plus. Ouais. Et où là, en effet, on a été très très bien accompagnés, lui aussi. Tout était beaucoup plus doux, c'est déjà très très dur, mais là, tout était beaucoup plus doux.
Témoignage recueilli par Raphaël Constant. On parle donc pendant cette émission de l'émergence de cette approche sur le continent africain, soins palliatifs dont l'accès, on l'a entendu, hein, là, docteur Tambo Batili, reste encore complexe dans de nombreux cas en France. Le père de Violaine, notre témoin, qui est resté moins d'un mois en soins palliatifs, ça veut dire que finalement, ce patient est arrivé tard dans cette structure. Elle le raconte, ça a été véritablement, il a fallu quasiment se battre pour réussir finalement à accéder à cette douceur.
Oui, c'est toute la difficulté jusqu'à présent. Je pense que ça existe. Quand on a intégré les soins palliatifs dans les plans cancer, donc ce qui se passe, on a créé des structures. Et dans toute l'île de France, on trouvera que voilà, il y en a 15, une vingtaine de structures. Et avec des lits qui sont vraiment souvent 5 lits, 10 lits, 15 lits. Donc c'est pas énorme. Et donc du coup, la demande, elle est forte. Et donc il y a un manque de place. Et chaque fois qu'on fait une demande, et souvent, on attend 2 semaines, 3 semaines, on n'a pas de place. Entre-temps, le patient, il est dans un service qui n'est pas adapté. Et pour recevoir vraiment le soin de confort, une infirmière qui s'occupe des lits des soins palliatifs doit s'occuper de 5 à 3 malades. Alors que dans un service normal, où le patient est actuellement, l'infirmière a 7, 8. Donc, elle ne peut pas donner...
Toute cette attention
que le patient et la famille ont besoin. Donc, qui fait qu'on a un retard par rapport à cette logistique, mais c'est en train de s'améliorer. Et donc, cela est dû aussi à un manque de personnel qui s'intéresse pour faire des soins palliatifs. Personnel, donc du coup, si on ouvre des unités, il faut forcément du personnel qui s'occupe de ça. Malheureusement, il y a peu de gens qui veulent faire des soins palliatifs. Donc, ça commence à décanter un peu avec de l'effectif, mais ça explique un peu une partie. Et puis, il y a la faute aussi souvent des cancérologues ou d'autres médecins qui veulent se battre, ne veulent pas perdre le combat, disant que voilà, il faut que j'aille au bout. Au final, ils retiennent le patient et qu'il va décéder avec un traitement administré une semaine après, 10 jours après. Alors qu'on devrait arrêter tôt pour passer la main dans une structure spécialisée. Et
changer de registre à définir.
De registre à
justement, ce que recouvrent ces soins palliatifs, docteur Christian Nizimira, c'est aussi corriger certains préjugés. Par exemple, c'est très important de dire que non, les soins palliatifs, ce n'est pas simplement délivrer des antidouleurs.
Oui, les soins palliatifs, les antidouleurs font partie de soins palliatifs.
C'est important, mais ce n'est pas que ça.
Oui, c'est très important, mais ce n'est pas que ça. Donc c'est tout l'ensemble, comme vous l'avez dit, c'est toute une équipe multidisciplinaire qui s'est mise en charge pour la prise en charge du patient.
Alors justement, sur cette lutte contre la douleur, on en parle quand même parce que en fonction des différentes régions du monde, la perception, l'acceptation de cette prise en charge de la douleur peut varier et ça se traduit très concrètement dans l'accès aux produits. Alors pour le Rwanda précisément, docteur Christian Nizimira, où est-ce qu'on en est en matière d'accès aux opiacés pour soulager les souffrances des patients ?
Le Rwanda fait un très grand effort. En 2011, le Rwanda était le premier pays africain à avoir une politique nationale de soins palliatifs et un plan stratégique et un plan d'intégration. Et c'est en 2013 que le Rwanda a commencé à produire sa propre morphine, qui est l'opiacé maître dans la prise en charge des antidouleurs sévères. Et aujourd'hui, si je me rappelle très bien, le Rwanda est passé entre 2007 et 2009 à 0,2 kg de morphine par an, à presque 15 kg de morphine, dû parce qu'il y avait une éducation de médecins, éducation du personnel soignant sur la prescription. Il y a même la loi sur le précurseur de psychotropes qui a été adaptée en 2012.
Qu'est-ce qui retenait avant les médecins? C'était quoi le motif, la raison justement de cette prudence extrême, voire exagérée, à prescrire des antidouleurs pour des cas extrêmes de souffrance?
La première chose, c'est de comprendre que la douleur fait partie des signes vitaux. La douleur, la compréhension de la douleur n'était pas comprise comme quelque chose d'important à traiter. Il y a même, il y a quelques années, j'ai rencontré des médecins qui me disaient que si tu traites la douleur, tu ne sauras pas ou comment très bien diagnostiquer parce que la douleur te permet de bien comprendre que le patient est encore vivant, ce qui était un mythe. Alors, il y a beaucoup de mythes concernant la douleur, ce qui faisait que même l'utilisation des morphiniques aussi a permis cette restriction de ne pas traiter la douleur comme il faut. Et cela engendre pas mal de conséquences pour les patients et la famille.
Il faut dire qu'avant, dans certaines régions, c'est même encore le cas aujourd'hui, pour avoir le droit de prescrire des antidouleurs, il fallait passer par toute une série d'obstacles, obtenir signature sur signature sur signature.
C'est vraiment un marathon, parce que même la politique au Rwanda a complètement changé, parce que même pour avoir une ampoule de morphine, il y a cela 10 ans, il fallait avoir un bic rouge, une prescription signée par 3 ou 4 personnes.
Il y avait quand même une dimension morale derrière tout cela, c'est que finalement souffrir ce n'était entre guillemets, énorme guillemets, pas si grave, et puis que la morphine s'était quand même associée encore à des choses assez sulfureuses.
Il y avait un mythe derrière la morphine, que la morphine précipitait la mort. Et alors, ce qui faisait que le médecin n'était pas vraiment se sentait à l'aise de pouvoir prescrire la morphine. Donc, il a fallu changer d'abord la politique et puis rééduquer les personnels soignants pour comprendre que la douleur fait partie des signes vitaux.
Inscrire les antidouleurs sur la liste des médicaments essentiels, pour l'instant, c'est loin d'être le cas sur l'ensemble du continent africain. Justement, pour décrire la situation, pour le cas du Mali, docteur Tambo Batili, où est-ce qu'on en est ?
Au Mali, on en est né que... On va dire en 2019, comme disait Christian, je pense qu'on est dans la même évolution. En 2009, quasiment, on va dire que ça s'explique que la prescription de la morphine, c'était très rare, parce que tout simplement, il y avait peu de personnel qualifiant qui utilise cette molécule à part les anesthésistes. Et donc, actuellement, en 2019, le nombre de spécialistes dans le pays a doublé, voire triplé. Donc avec beaucoup d'écoles de formation spécialisées, des spécialistes qui étaient en Europe qui sont rentrés et donc qui ont développé vraiment la prescription et tout ce qui est le circuit du médicament. Aujourd'hui, en 2019, on aura la morphine en intraveineux, la morphine en comprimé, c'est disponible et c'est prescrit par les services de cancérologie, les services des anesthésistes qui le prescrivent, qui savent le faire. Maintenant, il reste à généraliser les patients qui n'arrivent pas dans ces services spécialisés auront des difficultés à trouver cette morphine, alors que ça ne couvre pas l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la difficulté aujourd'hui de mettre des mécanismes en place au niveau des communes, au niveau des provinces, pour que un patient qui souffre, comment donner un circuit avant d'arriver dans le service spécialisé? Là, il reste encore un travail. Là, c'est toujours le problème de manque des spécialistes, des personnels formés. Je pense que le gros problème, c'est ça. C'est pas le circuit.
Justement, docteur Christian Nizimira, on a bien compris, hein, dans certaines régions de la planète, notamment les pays développés, qui ont des systèmes de santé performants, il y a des services dédiés aux soins palliatifs. Par contre, ailleurs, on va dire que c'est d'abord une démarche, un savoir-faire, d'où l'importance de former les soignants. C'est essentiel, docteur Nizimira.
Oui, pour le cas du Rwanda, c'est l'exemple que je connais le mieux, c'est que le Rwanda a fait du soin palliatif une approche de santé publique. Alors, il y a une déformation sur toutes les formations sanitaires, c'est-à-dire du primaire, tertiaire, secondaire, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la politique, c'est de mettre le soin palliatif disponible au niveau de la communauté. Et le Rwanda a formé des agents de santé communautaire et a des objectifs, je pense, d'ici quelques années d'avoir, comme nous avons des agences communautaires par village pour le malaria, tuberculose et le VIH, et d'avoir aussi des agences communautaires dans chaque village pour le soin palliatif, qui pourront être les yeux et les oreilles des médecins pour l'éducation, la sensibilisation, mais aussi pour la prise en charge de patients et des familles au niveau de...
Comment on explique cette prise de conscience au Rwanda, justement, d'avoir vraiment mis le doigt dessus, dit c'est quelque chose d'essentiel, c'est lié à une évolution du pays, c'est lié à quoi ?
C'est lié au gouvernement du Rwanda, par le ministère de la Santé, de pouvoir prendre conscience que, comme je l'ai dit, qu'un patient mourant, c'est un patient vivant, et que toute la prise en charge doit être totale depuis le diagnostic, pas nécessairement sur les maladies qui peuvent être guéries, mais aussi pour les maladies chroniques qui ne peuvent pas être guéries. Donc je pense que c'est à cause de ce leadership qui a permis un peu de ces changements-là.
Précisément sur le lien entre certaines pathologies et le recours aux soins palliatifs. On l'a bien compris, docteur Tambo Batili, vous êtes oncologue, le cancer au premier chef justement des patients qui vont en soins palliatifs. Il y a d'autres maladies chroniques qui sont associées et qui ont peut-être dans leur histoire, plus on a pris en charge les patients concernés par le cancer, plus on s'est posé cette question des soins palliatifs. On peut dire que cela l'a été également avec l'arrivée du VIH.
Tout à fait, avec l'arrivée du VIH, en tant que tel qui arrive au stade sida, avec des complications qui sont mortelles, et donc il y a une spécificité par rapport à l'accès aux traitements antirétroviraux, qui sont des médicaments pour la maladie du VIH. Et quand on arrive à la fin, les maladies opportunistes, ce qu'on appelle, donc ce qu'on attrape, tuberculose, ou des pathologies qui montent dans le cerveau, qui fait que des gens sont dans un stade, on va dire, prémortel, donc il faut les accompagner. Et pareil, ces mêmes patients peuvent avoir encore du cancer. Donc c'est ça qui fait que donc ces maladies chroniques, donc on a une maladie chronique qui se greffe sur une autre maladie chronique.
Dans le cas de la cancérologie, on peut dire que c'est davantage dans accroché à ces services de cancérologie que l'on retrouve ces services de soins palliatifs aujourd'hui, ou c'est pas réduit simplement à cette prise en charge en oncologie?
Ah non, c'est pas qu'en oncologie. L'oncologie, alors on va dire plus de 50% sont occupés par l'oncologie, mais c'est pas que l'oncologie. Il y a les pathologies neurologiques chroniques
et les maladies dégénératives notamment. Et les maladies aussi, c'est une problématique qui est également associée au vieillissement forcément de la population, aux maladies du grand âge, et ça concerne y compris l'Afrique, Tambo Batili.
Y compris l'Afrique, tout à fait. Exactement, il n'y a pas de différence parce que on a les mêmes problématiques. Sauf que donc, tout ce qui est dégénératif, tout ce qui est maladie chronique en Afrique, où il n'y a pas beaucoup de souffrance, c'est géré par la famille. On a une famille qui est très présente ou très disponible. Accompagnants, ils font le rôle des aides-soignants, la famille prend une partie des soins par rapport à ici à l'Occident, où on travaille de façon souvent très active, on n'est pas disponible, où on met les gens uniquement dans des structures spécialisées soins palliatifs. Le modèle africain, ça peut être beaucoup au domicile, l'hôpital à domicile, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent les soins.
Justement, c'est là où on a justement cette approche communautaire que vous venez de nous décrire tout à l'heure, docteur Nizimira, très importante, qui colle réellement à la réalité du terrain sur le continent africain.
Oui, le principe des soins palliatifs est universel, mais le modèle de soins peut varier d'un pays à un autre. Et je pense que pour le Rwanda, l'approche est communautaire et au niveau... Parce que la politique maintenant du ministère de la Santé du Rwanda, c'est qu'il n'y a pas de couverture maladie universelle sans intégration des soins palliatifs. Donc les soins palliatifs doivent faire partie vraiment de la santé publique. Et je pense que c'est cette approche qui est beaucoup plus, et même pour les patients, la famille, de voir que les services sont non pas à 1 kilomètre, 2 kilomètres, mais à côté. Je pense que ça aide beaucoup à réduire l'anxiété, la dépression même de la famille vis-à-vis de la prise en charge.
Précisément sur cette question de l'accompagnement psychologique du patient, on le comprend, on l'entend. Également, accompagnement psychologique dans cette étape très particulière pour les proches, docteur Tambo Batili. Là encore, dans certains services de soins palliatifs, cette dimension psychologique est totalement intégrée.
Elle est totalement intégrée parce que pour avoir la maquette d'un service de soins palliatifs ou même un service de cancérologie, aujourd'hui, il est exigé qu'il faut qu'il y ait des psychologues. Qu'ils interviennent, il y a certains départements, même des psychiatres qui sont là, et donc ils font partie de l'équipe avec les cancérologues, avec les services sociaux, administratifs, donc il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui prennent en charge cette dimension, et même spirituelle aussi, dans la maquette globale.
On voit, dans certains services de soins, justement, la possibilité d'aller vers telle ou telle religion, c'est quelque chose qui est, cette dimension de la spiritualité, qui est complètement intégrée.
Complètement intégrée. On voit dans les hôpitaux souvent, même des prêtres qui viennent au chevet des patients, complètement, c'est qu'ils sont dans la dimension spirituelle. Ça peut être les cas des imams qui viennent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on sait que la relation face à la mort, chacun a ses croyances. Et souvent, cette dimension spirituelle, ça peut aider à régler le problème psychologique.
Tambo Batili, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui aussi de l'implication des associations. C'est absolument essentiel en soins palliatifs.
Moi, je pense que c'est essentiel dans les soins palliatifs, surtout en Afrique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les politiques. Les politiques, ils ont beaucoup des champs d'action. Donc, si les associations qui font une démonstration en remontant vers les politiques, les associations, ça permet de sensibiliser les politiques prennent une décision. Et dans cette décision, ça peut passer par aussi l'éducation au sein des universités. Et une fois que les personnels soignants qui sont formés dans des écoles sont formés et avec la décision politique, les associations sensibilisent les politiques prennent décision d'intégrer les soins palliatifs au niveau de l'enseignement, au niveau de la plateforme sanitaire. Et donc, je pense avec cette décision, on arrivera. Ensuite, il faut passer, je pense, par avec l'Afrique, les cliniques qui sont au bord de route, les cliniques qui sont dans les villages, à mettre une équipe des infirmières, de médecins, même les tradipraticiens qui sont des guérisseurs traditionnels doivent être intégrés dans le maillon de la prise en charge.
N'exclure personne.
Tout ce qui fait qu'on peut coopérer pour aller dans le bien du patient.
Docteur Nizimira, je vous ai pas donné la parole. Vous vouliez peut-être réagir sur cette question de la spiritualité intégrée aux soins palliatifs?
Oui, j'aimerais juste dire que tout patient est un être spirituel, mais tout patient n'est pas un être religieux. Parce que la spiritualité est liée plutôt au sens de la vie définie par les patients et non pas par rapport à une certaine religion. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que souvent, certains patients, la dépression, même l'anxiété, peut venir parce que nous n'avons pas très bien compris, comme le docteur Batili l'a dit, face à la mort, à une certaine spiritualité définie par les patients.
Alors justement, sur cette approche très très singulière, très personnalisée, la question du choix, de savoir ce que l'on veut faire par rapport à ses croyances, mais par rapport aussi à ce que l'on va devenir dans certains moments particulièrement délicats. Avant, on utilisait le terme de dernière volonté, hein, c'est un petit peu le terme qu'on entendait notamment dans les romans, dans les films, hein, c'est ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, on parle davantage de directives anticipées.
Priorité santé sur RFI.
Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Ruth Elibro. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission au fonds pour les soins palliatifs. Eh bien, cette question des directives anticipées, elle est indirectement revenue sur le devant de l'actualité ces dernières semaines en lien avec le sort d'un homme, hein, Vincent Lambert, dont les proches, la famille se déchirent, notamment parce qu'avant d'être très gravement accidenté, cet homme n'avait pas donné de consigne écrite sur ses souhaits au sujet, hein, de l'arrêt ou non des traitements. Ruth Elibro, à quel moment est-ce qu'il est possible justement de rédiger des directives anticipées ?
À tout moment de sa vie, dès lors que nous sommes majeurs, y compris si nous sommes placés sous tutelle, dans ce cas-là, nous pouvons les écrire avec l'accord du juge ou du conseil de famille. Nous pouvons les écrire si nous sommes atteints d'une maladie grave et que nous pensons être en fin de vie, mais nous pouvons aussi et surtout les écrire quand nous pensons être en bonne santé et que nous ne sommes pas à la fin de notre vie.
Question très concrète, Ruth Elibro, sous quelle forme, sur papier libre, ça ressemble à quoi exactement, des directives anticipées ?
Alors, c'est l'expression de la volonté de la personne pour sa fin de vie, dans différentes situations. Elles sont écrites sur papier libre, avec l'identification de la personne, bien sûr, son identité, sa date de naissance, sa domiciliation. Si la personne qui les écrit n'est pas très en mesure d'écrire facilement dû à sa situation, elle le fait avec deux témoins qui doivent être clairement identifiés et qui signent. Et cela consiste à écrire ses volontés à propos des situations dans lesquelles nous risquons de nous trouver, suite à notre maladie si nous sommes gravement malades, ou dans lesquelles nous voulons ou ne voulons pas nous retrouver en fin de vie. Cela consiste également à écrire tous les actes et traitements médicaux dont nous pourrions faire l'objet et que nous acceptons ou non, et à considérer la situation de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur. Autant dire que pour les écrire, nous avons besoin de pouvoir discuter très librement avec notre médecin traitant ou avec un médecin spécialisé de la maladie dans laquelle nous trouvons éventuellement, afin de nous éclairer et de nous guider sur les différentes situations possibles.
Alors on comprend, hein, des questions excessivement personnelles. Et justement, vous disiez, en parler avec son médecin, ces directives, on peut justement en informer son médecin, voire même les remettre à son médecin.
Il faut en informer son médecin. Les directives anticipées sont un droit de la personne, malade ou non, qui vont être obligatoirement prises en compte par les médecins dans une situation de fin de vie où la personne ne peut plus s'exprimer. Aussi faut-il que la personne ait clairement réfléchi à ses volontés et comme elle n'est pas un professionnel du soin et des situations cliniques qui peuvent se présenter, elle a besoin de conseils. Elle a besoin de pouvoir discuter pour nourrir sa réflexion, pour nourrir sa propre évolution. Le médecin doit être au courant, ses proches doivent être au courant, la personne de confiance, quand elle existe, doit être au courant. Les directives anticipées sont conservées là où souhaite la personne, mais quand un dossier médical partagé existe, elles ont toute leur place là parce qu'elles sont accessibles immédiatement.
Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, seuls 13% des Français ont formulé par écrit ces directives. Comment l'expliquer ? Parce que les usagers ne sont pas suffisamment informés ou parce que c'est simplement tabou et c'est quelque chose qu'on repousse ?
Les deux. Il y a encore un manque d'information, mais de moins en moins. Et surtout, il est extrêmement difficile d'envisager le moment de sa fin de vie, les conditions de sa fin de vie quand nous sommes en bonne santé. Je pense que ça l'est aussi quand nous sommes atteints d'une maladie grave. Peut-être que les directives anticipées sont aussi un prétexte à discuter, à parler, à échanger, et que ce chemin-là étant fait, les personnes ne ressentent peut-être pas le besoin d'aller jusqu'à les écrire.
Merci.
Merci. À peu près toutes les situations.
Merci beaucoup, hein, Ruth Elibro, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes chargée de mission au fond pour les soins palliatifs.
Priorité santé sur RFI.
On arrive à la conclusion de nos échanges. Docteur Tambo Batilé, après ce que l'on vient d'entendre, est-ce que parfois vous avez été confronté à ce type de problématique dans votre exercice? Il y a bien sûr la possibilité de recourir à ces soins palliatifs, mais d'être devant un patient, on ne sait pas exactement ce qu'il veut, il formule des choses, comment ça se passe? C'est une expression qui est très complexe.
C'est très complexe. Moi, je me suis plusieurs fois confronté à cette situation. Il y a des gens qui sont très clairs, qui vont dire que s'il m'arrive quelque chose, j'ai tout préparé, c'est bon pour moi, et tout ce que je ne veux pas souffrir. Parfois, c'est la famille qui formule tout ce qu'on veut, et il ne faut pas qu'il souffre. Ça, c'est la majorité des gens. Après, écrire ces directives anticipées en disant s'il m'arrive quelque chose, ne plus faire. Moi, j'ai eu 3 cas où des gens, ils écrivent carrément je ne vais pas être réanimé, je n'ai pas besoin vraiment d'acharnement thérapeutique.
Ce qui peut interroger, c'est que les gens sont plus réticents à parler de leur vie que de parler de leurs biens et de leurs possessions matérielles. Alors, on comprend bien que c'est moins sensible, mais aller faire un testament chez le notaire, pour beaucoup, ça ne pose aucun problème. Par contre, dire comment on souhaite partir, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est plus compliqué, on va dire. Donc ça, c'est vraiment tabou jusqu'à présent. Donc les gens, ils formulent pas. Il y a un déni par rapport à ça. Donc dans la vraie vie, c'est rare que les gens ils font ça.
Docteur Christian Nizimira, est-ce que cette problématique des souhaits de fin de vie, des directives anticipées, ça existe au Rwanda?
Ça existe sous forme verbale. Quand on travaille avec la famille vous dit le patient voudrait ceci, cela, mais c'est pas encore écrit. Et aussi, étant membre de l'Organisation rwandaise de soins palliatifs et des hospices, on a eu une formation avec le juriste et des avocats du Rwanda pour essayer de savoir quelles sont les méthodologies ou quelles sont les stratégies pour essayer un peu de mettre un peu ces directives au service du patient, bien sûr, et de leur famille, si jamais ils en ont besoin et comment on pourra les faire.
Alors, c'est vraiment la conclusion maintenant. Je voulais juste recadrer les choses par rapport à tout ce qu'on a dit, toute cette définition, toute cette approche. C'est bien expliqué, docteur Christian Nizimira, que les soins palliatifs, ça ne veut pas dire médicaliser à tout prix la fin de vie. Ça ne veut pas dire que ce sont des soignants, des infirmières, des médecins qui vont contrôler la fin de la vie de quelqu'un. C'est vraiment cette dimension d'accompagnement.
C'est vraiment une dimension globale. Et comme par expérience, par ma petite expérience, je le dis toujours, la façon dont un patient meurt reflète comment une société vit. Et c'est là, pour moi, définir en soi les soins palliatifs, dans le sens pour dire, c'est pas uniquement l'acharnement thérapeutique, mais c'est une prise en charge de l'environnement, du patient, et aussi mettre en charge aussi sa société.
Est-ce que pour vous, justement, acharnement thérapeutique, soins palliatifs, ce sont deux mots qui ont un écho l'un par rapport à l'autre? Certaines personnes avaient avant la crainte, en arrivant à l'hôpital, justement, qu'on leur administre des soins qu'ils ne souhaitaient pas, qu'on s'acharne avec parfois des choses très difficiles au niveau de l'intégrité physique. Le soin thérapeutique, c'est la mort de l'acharnement thérapeutique.
Oui, dans ces sens. Dans les sens où, quand les patients et la famille sont bien informés, ils savent très bien ce qu'ils vont recevoir. Mais quand ils ne savent pas, bien sûr, comme le docteur Tambo l'a dit, la mort, c'est quelque chose de... Personne ne peut dire qu'il y a une expérience de la mort, à moins qu'on soit mort et puis qu'on revienne à la vie pour dire « je connais très bien ce que c'est la mort ». Mais quand on va, c'est quelque chose d'inconnu pour les patients et pour même les personnels soignants. Alors, tout le monde essaie de voir comment faire. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, il serait mieux de voir ce que les patients veulent et la famille. Et quand ils ont une bonne information, ils savent exactement ce qu'il faut faire.
Et sur le regard du médecin, de l'oncologue, il est quand même là pour soigner. Il est là pour essayer de guérir. Quand on en vient aux soins palliatifs, il n'y a pas une forme de déception, de dire finalement je n'ai pas réussi? Comment ça se passe au niveau du médecin qui justement avait passé un contrat implicite avec son patient en disant je vais vous soigner?
Non, l'oncologue il est formé à ça. Parce que du moment, l'oncologue depuis le départ par rapport au diagnostic d'une pathologie, il sait très bien que ces patients, il leur reste 5 ans, 3 ans, il y a une situation, un mécanisme palliatif qu'on met en route, une maladie incurable. Et donc, il va se protéger l'oncologue avec des différentes étapes. Quand il arrive à la fin, il sait ce qui se passe. En général, les patients, ils le décrivent très bien. Je ne le vois plus, il répond plus à mes mails. Donc, en fait, il y a un retrait. Souvent, c'est la fuite. Et cette information, et généralement, l'oncologue donne le relais au médecin spécialiste de soins palliatifs en disant, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est intégrer les soins palliatifs en amont pour que le patient ne se sent pas un peu délaissé par l'oncologue, qu'il y a cette équipe qui l'accompagne jusqu'au bout, en prenant chacun sa place.
Avec une forme aussi de délicatesse dans ce relais, c'est important.
Ce relais. Exactement.
Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à Priorité Santé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, docteur Christian Nizimira, spécialiste de la douleur et des soins palliatifs au Rwanda. Et à vous, docteur Tambo Batili, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy et membre de l'équipe d'Oncomalie. Bien bouger pour être en bonne santé. L'activité physique dans Priorité Santé, c'est bien sûr avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Jean-Marc, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler des spécificités de l'alimentation du sportif. Alors, qu'est-ce que ça de spécial, une alimentation pour sportif? Qu'est-ce qu'il doit manger davantage que quelqu'un qui a une activité physique assez réduite?
Effectivement, Caroline, le fait de faire beaucoup de sport, eh bien, fait qu'on augmente les dépenses énergétiques. Alors là, on va d'emblée dire qu'il s'agit de sportifs qui pratiquent plus de 3 fois par semaine du sport. En dessous, il suffit d'avoir une alimentation régulière et équilibrée qui est tout à fait suffisante. Mais lorsqu'on pratique beaucoup de sport, par exemple une fois par jour, eh bien, effectivement, on brûle davantage de calories et ce sera nécessaire d'adapter un petit peu son alimentation, et cela en fonction de la nature, de l'intensité et de la durée de la séance.
Alors, quels aliments privilégier?
Par exemple, si on fait des sports d'endurance, c'est intéressant d'avoir un petit peu plus de glucides, parce que les glucides sont véritablement le carburant qui vont permettre de faire cet effort prolongé. Lorsqu'on va faire des sports de musculation ou des efforts de renforcement musculaire, eh bien, ça sera intéressant d'essayer de réparer ou développer ces cellules musculaires, et là, l'apport en protéines légèrement augmentées seront intéressantes. Et puis enfin, il faut savoir que le fait d'apporter trop de lipides n'est pas une bonne chose, parce que d'abord, ils sont difficiles à digérer et rajoutent du poids, ce qui sur le plan de la performance n'est pas terrible. Et puis enfin, les besoins sont accrus souvent en vitamines, en minéraux comme la vitamine C, la vitamine B, et puis des minéraux comme le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, qui sont éliminés par la sueur, peuvent être apportés effectivement, par exemple, dans des boissons de l'effort.
Alors, on va continuer de parler de ces boissons. Pourquoi, docteur Sen, est-ce qu'il est si important de boire quand on fait du sport de façon très intensive?
L'idée, c'est de compenser les pertes hydriques. Alors, il faut bien boire avant, pendant, après la séance. Il faut boire avant d'avoir soif et il faut boire au-delà de sa soif. Tout ça sont des choses qui sont absolument importantes et qui vont être fonction de la durée de l'exercice, la température extérieure, du taux d'humidité. Alors, tout cela peut avoir, bien sûr, si on n'apporte pas suffisamment d'eau, des répercussions sur la performance. 2% de déshydratation, c'est 20% de performance en moins, mais aussi ça peut avoir des conséquences sur la santé, ça peut entraîner de véritables problèmes majeurs de santé. Alors l'eau suffit généralement lorsque l'effort n'est pas très prolongé, sinon il faut prendre effectivement des boissons énergisantes ou faire sa propre boisson, que j'aime beaucoup.
Allez-y.
Le fameux mélange, j'aime cette boisson.
La potion magique du docteur Sen.
Voilà, qui est le fameux mélange entre une boisson gazeuse, de l'eau gazeuse que l'on pourra dégazéifier, l'autre moitié de volume par un jus de fruits de son choix, et puis une pincée de sel qu'on rajoutera pour pouvoir avoir une boisson de l'effort parfaite.
Ce qui permet de rester hydraté, ce petit grain de sel.
Absolument.
Merci docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, Maquiofé, la scène Didier Bleu. Demain, nous allons parler des cancers de la peau, prévention, dépistage, prise en charge. On attend vos témoignages, vos questions au 33 84 22 75 75. Et bien sûr, comme tous les jours, vous pouvez nous laisser vos messages sur la page Facebook de l'émission.
C'est
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Écoutez.